Alors, nous allons donc continuer nos études bibliques et puis c'est toujours dans le thème, c'est sur le salut. Et ce soir, on va voir que le salut, ben, il passe par la mort de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, nous allons surtout parler de la mort de Jésus et puis mardi prochain, on parlera de la résurrection. Parce que c'est vrai qu'il y a eu la mort de Jésus, mais il n'est pas resté mort, il est ressuscité. Donc aujourd'hui, on va parler spécialement sur la mort de Jésus. Donc je vais vous distribuer des feuilles. Ce sont enfin, c'est un peu le plan de ce que nous allons voir, hein. Alors c'est vrai que sur les feuilles, j'ai marqué en tête la mort, mais j'aurais pu rajouter la mort de Jésus. C'est vrai que quand on lit ça, la mort. Ça fait peut-être peur, mais voilà. En tout cas, le Seigneur, il est passé. Il a fallu qu'il passe par la mort pour pouvoir que nous puissions avoir accès au salut. Bon, je ne sais pas s'il y a assez de. Oui, il devrait y avoir assez de feuilles. S'il en reste assez, il n'y a qu'à les laisser en bout en cas que quelqu'un. Si quelqu'un arrive. Alors, ce soir, nous allons voir pas mal de passages qui nous parlent justement de la mort de Jésus, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. La mort de Jésus, elle a été annoncée bien avant et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, dans les premières feuilles que je vous ai données, on voit la mort de Jésus, elle est volontaire. Alors, c'est vrai qu'elle a été prévue d'avance, elle n'est pas venue à l'improviste. La Bible dit que Jésus donne sa vie, on peut lire dans Jean au chapitre 10, le verset 18. Alors, celui qui trouve le verset, eh bien, qu'il puisse le lire, Jean 10, verset 18.
Personne ne me ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père.
Voilà. Hein, donc, c'est vrai que Jésus avait le pouvoir de donner et de pouvoir reprendre la vie. Donc, tout simplement, c'est qu'il a accepté. Il a accepté de faire la volonté de Dieu. Mais sa mort a été importante. Et il faut reconnaître qu'elle est capitale aussi pour l'homme. Si Jésus ne serait pas mort hein, à la croix, s'il n'aurait pas versé son sang, eh bien nous ne serions pas sauvés. Ça, c'est une certitude, c'est ce que la Bible nous dit. Donc sa mort, elle est capitale pour nous. Sa mort a été prédite bien avant sa venue sur la terre. Et on va voir plusieurs passages dans l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de symboles qui retracent cela. Alors on va en voir quelques-unes et on va voir déjà dans Genèse au chapitre 4 le verset Genèse chapitre 4 verset 3 à 5. Genèse chapitre 4 verset 3 à 5.
Un peu, hein. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse.
On peut lire jusqu'au 6, oui.
Oui, oui, non, mais excuse-moi.
Non, mais vas-y.
L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn. Et sur son offrande, Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre ?»
Voilà, merci. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. L'offrande que Abel avait fait, c'est... une image à ce que le Seigneur, lui aussi, va s'offrir sur la croix. Et nous pouvons voir aussi celui d'Abraham dans Genèse au chapitre 22, et on peut lire les versets 13 et 14. Toujours dans la Genèse.
Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yéhova-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu.
Voilà, on voit qu'Abraham aussi, il prend le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Donc ça, là aussi, c'est un symbole au sacrifice de Jésus-Christ. Et on peut voir aussi encore dans Genèse au chapitre 8, verset 20, celui de Noé. Alors, Genèse toujours 8, verset 20.
Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel.
Voilà, il offrit des holocaustes sur l'autel. Et nous savons que Jésus-Christ aussi s'est offert sur l'autel pour l'être humain. Alors, c'est vrai qu'il y a bien d'autres passages qui nous parlent des sacrifices qui ont été faits sur l'autel. Ce sont des symboles de la mort de Jésus. Et nous pouvons aussi retenir plus particulièrement celui de l'agneau pascal en Égypte. Dans Exode au chapitre 12, verset 1 à 28, on va peut-être laisser s'installer les personnes avant de lire. Le thème de ce soir, c'est toujours sur le salut, mais nous allons parler tout particulièrement de la mort de Jésus, que sans la mort de Jésus sur la croix, nous ne serions pas sauvés. Et donc, ce soir, nous allons parler tout particulièrement sur le sacrifice que le Seigneur a fait pour nous. Donc, on a vu quelques symboles dans l'Ancien Testament, et on était en train de dire que nous pouvions voir dans Exode au chapitre 12, au verset 1 à 28, que nous n'allons pas lire, mais vous connaissez quand même l'histoire, et rappelez-vous que le sang sur les linteaux qui a permis à tous ceux qui étaient dans les maisons d'être sauvés, que l'ange de l'Éternel, il est passé outre. Toutes ces offrandes préfiguraient la grande offrande que devait être faite par Jésus, lui qui est l'agneau de Dieu. On peut peut-être lire dans Exode juste au chapitre 12, le verset 13. Exode 12, verset 13.
Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte.
Voilà, quand l'ange de l'Éternel voit le sang, eh bien, il passe outre. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que Dieu, lui, nous voit à travers le sang de Jésus qui nous couvre de tout péché. Et c'est pour cela que c'est par la grâce du Seigneur que nous sommes sauvés, par le sang qu'il a versé, qui nous justifie de tout péché. Donc c'est important de reconnaître que cette mort, ce sang versé, eh bien, elle a des conséquences pour nous aujourd'hui, de savoir que l'ange de l'Éternel, il est passé outre, et bien nous sommes sauvés aussi par le sang de Jésus-Christ seul. Alors, nous allons continuer sur nos feuilles. Il y a aussi les prophéties annonçant la mort de Jésus. Alors, nous avons dans le psaume 41:10, on voit qu'il y a la trahison. Il a été trahi. On va peut-être voir plus dans Ésaïe. On va Ésaïe 53, verset 5. Donc, on lit dans Ésaïe 53, verset 5. C'est un chapitre qui est extraordinaire, c'est chapitre 53. 53, verset 5, si vous voulez le lire.
Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.
Voilà, c'est vrai qu'on aurait pu rien que prendre tout ce chapitre et de faire rien qu'une étude sur ce chapitre-là qui est extraordinaire, qui annonce vraiment ce que allait se passer avec Jésus. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et on voit aussi dans Zacharie, Zacharie annonce d'avance que Christ sera vendu aussi pour 30 pièces d'argent. Au chapitre 11, verset 12. On peut le lire. Zacharie, chapitre 11, verset 12.
Tu as mis 13 sur le papier.
13, 7.
J'ai mis 13. Ah, 13, verset 10, 7. Oui, alors, oui. Donc, enfin, dans Zacharie, j'avais lu que, bon, on voit qu'il a été vendu pour 30 pièces d'argent. Et il a prédit aussi, donc c'est peut-être dans le verset 13, verset 1, c'est ça?
C'est 11, oui.
Ouais.
Ça, c'est quand le berger est français et les brebis sont dispersées. C'est le verset qui dit ça.
Voilà, alors il a prédit aussi que le berger sera frappé, c'est ça. Mm-hmm. Ouais. Donc, il est dit aussi que dans Zacharie, au 13, verset 1, qu'une source sera ouverte pour le péché et l'impureté. Alors, je reviens quand même sur ce verset 13, là, verset 7, où que le berger sera frappé. Ici, Dieu veut parler du bon berger. Et, le bon berger, ça peut être considéré comme le Seigneur, comme un pasteur, hein, dont la mort avait été prévue avant la fondation du monde. Et on peut voir dans Actes, au chapitre 2, verset 23, il est dit, je vous le lis, hein, il est dit, cet homme livré selon le dessein, arrêté selon la préscience de Dieu, donc Dieu avait prédéterminé la mort rédemptrice de Jésus bien avant.
Quel chapitre d'Actes ?
Ça, c'était dans Actes au chapitre 2, verset 23.
Il y a le psaume 22 aussi qui est...
Oui, il y a beaucoup de... Il y en a beaucoup. Tu peux le prendre si tu veux. On va le lire. C'est vrai qu'il y a tellement de versets qui en parlent, il a fallu faire un choix.
Ouais.
Mais tu peux le lire.
Il y a plein de...
Oui, non, mais on peut le prendre.
Sur les circonstances, du moins, de la mort de Jésus.
Enfin, on ne va pas tout le lire, le psaume... Attends, je vais y aller.
Mais c'est surtout les versets... Les versets 17 à... Enfin, les versets 13 à 19, qui sont très parlants.
13 à 19.
13 à 19.
Léon, tu veux le lire?
Désolée, j'en rajoute. De nombreux taureaux m'environnent, ces fortes bêtes du Bazan sont tout autour de moi. Ils ouvrent largement leur gueule contre moi, ils sont comme un lion qui rugit et déchire. Je suis comme une eau qui s'écoule et tous mes os sont disloqués. Mon cœur est pareil à la cire, on dirait qu'il se fond en moi. Ma force est desséchée comme un tesson d'argile. Ma langue colle à mon palais et tu me fais retourner à la poussière de la mort. Des hordes de chiens m'environnent, la meute des méchants m'assaille. Ils ont percé mes mains, mes pieds, je pourrais compter tous mes os. Ils me regardent, ils me toisent, ils se partagent mes habits et tirent au sort ma tunique.
Oui, et là aussi, c'est clair, ils ont percé mes mains et mes pieds et ils ont tiré la tunique du oui. Seigneur. Donc, vraiment, la mort de Jésus... n'est pas venue comme ça, elle était bien prédite avant. Donc il est donc clair que la mort a été annoncée bien avant et que sa mort est importante pour le péché de l'humanité. Et nous pouvons que être reconnaissants hein, de ce que Jésus a fait sur la croix. Alors voyons maintenant, ça c'était dans l'Ancien Testament, nous allons voir maintenant dans le Nouveau Testament. Hein. Alors, dans le Nouveau Testament, la mort de Jésus, eh bien, ça occupe aussi une place très, très, très importante. Comme nous l'avons dit, Jésus a donné sa vie et on ne lui a pas ôté. Alors, on lit dans Hébreux au chapitre 2, versets 9 et 10. Alors, on va prendre Hébreux chapitre 9, chapitre 2, versets 9 et 10. Je comprends.
Mais voici ce que nous constatons. Après avoir été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges,
Jésus se trouve maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, c'est pour tous les hommes qu'il a connu la mort.
C'est pour...
En effet, Dieu qui a créé tout ce qui existe et pour qui sont toutes choses, voulait conduire beaucoup de fils à participer à la gloire. Il lui convenait pour cela d'élever à la perfection par ses souffrances celui qui devait leur ouvrir le chemin du salut.
Voilà. Hein, on voit vraiment ce que la mort de Jésus a fait. Il est mort pour tous les hommes et il nous ouvre justement le salut. La mort de Jésus, donc, n'est pas un accident, mais plutôt la réalisation d'un but précis. Son but était la rédemption, le rachat humain par le Fils de Dieu, c'est-à-dire le salut pour tous ceux qui croient en esprit et vérité et qui marchent, bien sûr, par la foi. C'est une grâce que le Seigneur nous accorde. Alors, c'est le thème fondamental de l'Évangile. Alors, vous savez que ce que l'Évangile veut dire, je pense que tout le monde le sait. C'est, oui, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du salut. Paul dit dans 1 Corinthiens au chapitre 15, que nous allons lire d'ailleurs. Voilà ce que Paul dit, 1 Corinthiens chapitre 15, de 1 à 5.
Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il est apparu à Cephas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts.
Voilà ce que nous dit l'apôtre Paul. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort pour les péchés de l'homme. Alors cela implique que l'homme n'a pas à mourir pour ses propres péchés. Il n'a pas non plus à se flageller dans parfois certaines cérémonies où on voit beaucoup de personnes qui se flagellent et tout. Non. Christ est mort une fois pour toutes pour les hommes. La bonne nouvelle, c'est que nous avons un sauveur. C'est bien sûr la bonne nouvelle de l'Évangile, l'Évangile de Jésus-Christ. Et vraiment, c'est important de pouvoir reconnaître que la mort de Jésus, elle est magnifique pour tous les croyants, pour tous ceux qui croient. Parce que c'est la vie dans la présence de l'Éternel que nous aurons dans le ciel. Et des fois, je me dis, est-ce que vraiment on prend conscience de cela, ce qu'est la mort de Jésus. Je crois qu'il est important de pouvoir reconsidérer un peu ce qu'a été la mort pour Jésus. On sait que ça n'a pas été non plus pour lui quelque chose de facile. On sait tout ce que la Bible nous dit, qu'il a été prié, qu'il y avait des grumeaux de sueur, qu'il était de sang. Quoi. Ça devait être une lutte extraordinaire. Alors, la bonne nouvelle est essentielle, bien sûr, à tout chrétien. Il y a beaucoup de religions. Les religions, ce sont les hommes qui les font, et non Dieu. Les religions veulent être reconnues par l'enseignement de leur fondateur. Par contre, le christianisme, lui, se distingue de tous les autres, car il s'appuie sur la parole de Dieu. Et je me souviens que Josias nous avait cité le passage de Jean, 1 Jean. On peut peut-être le reprendre. On peut prendre Jean chapitre 1, quand il nous est dit que au commencement était la parole. Et nous voulons nous appuyer justement sur cette parole qui est le Seigneur. Jean chapitre 1. Alors peut-être on va laisser un peu le temps des fois de chercher parce que quand comme on sait marquer les versets, on lit de suite et on n'a pas le temps peut-être d'aller chercher le... Alors on va prendre 2 secondes, juste Jean chapitre 1, on peut le lire, et au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et si on prend le verset 14, il nous est dit, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, en tant que chrétiens, nous appuyons pas sur un homme, nous nous appuyons pas sur une histoire, mais nous nous appuyons sur la parole de Dieu, hein, qui s'est fait chair et qu'il est venu habiter parmi nous et qu'il est mort aussi pour chacun de nous. Parce que si on enlève la croix où Jésus a été cloué, où son sang a coulé, eh bien on réduit la croix au rang de religion. Enlever la justification de son sang versé, eh bien c'est toucher le cœur de Dieu. Et dans 1 Corinthiens au chapitre 1, verset 23, Paul dit qu'il prêche Jésus-Christ crucifié. C'est ce qui nous est dit dans 1 Corinthiens au chapitre 1, verset 23. Jésus crucifié, on peut le lire. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 23. Prêchons Christ crucifié et on prêche pas un homme, mais c'est pour Paul, il prêche Jésus-Christ. Hein. Jésus crucifié est le vrai signe et la seule vraie sagesse. C'est l'unique message de Paul qui nous donne. Hein. Il prêche Jésus-Christ crucifié, car lui seul, c'est-à-dire Jésus, avait le pouvoir de sauver tous ceux qui croient. Et je crois que nous, quand nous nous rencontrons avec d'autres personnes, où chacun veut peut-être apporter sa vérité, je crois qu'il nous faut que nous soyons clairs que nous devons prêcher Jésus-Christ comme l'apôtre Paul le faisait, comme les disciples le faisaient, et pas essayer d'amener des arguments que nous pouvons avoir, nous. Mais je crois que ce qui compte, c'est la parole de Dieu. Comme Paul qui dit, nous prêchons Christ crucifié et ressuscité. Mais ça, nous le verrons la prochaine fois. Voilà sur ce passage de l'apôtre Paul qui nous dit qu'il prêche Jésus-Christ crucifié. On peut lire peut-être aussi dans Galates, au chapitre 6. Alors bon, ça fait de l'exercice, comme ça, ça nous aide à connaître un peu la Bible.
Pour Galates. Ceux qui me concernent, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde.
Aucune raison de nous glorifier, mais c'est Christ que nous voulons glorifier. Alors on va continuer. La croix est essentielle à notre salut. Alors on va prendre dans Jean, au chapitre 3. Jean chapitre 3, versets 14 et 15, on va dire.
C'est tout rouge.
Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle.
Et après, il y a le passage où on connaît très bien. Alors, vous connaissez tous l'histoire du temps de Moïse où il y a ce serpent des reins où plusieurs avaient été piqués par les serpents et pour être sauvés, pour être guéris, ben, il fallait qu'ils regardent justement le serpent des reins. Quelle image que nous avons là de savoir qu'aujourd'hui...
C'était déjà une préfiguration.
Bien, exactement, c'est une préfiguration de ce que Jésus a à la croix. Et quand nous tournons nos regards vers le Seigneur Jésus, eh bien, comme à l'époque ils étaient sauvés quand ils regardaient, bien nous gardons aussi nos regards sur lui et nous sommes sauvés. Un passage qui est magnifique. Hein. Nous savons tous que la graine que nous mettons en terre doit mourir pour produire du fruit. Seul le sacrifice de Jésus à la croix, eh bien, pardonne nos péchés. Ce n'est ni nos actions, nous, notre façon de faire, hein, seul, hein, c'est Jésus-Christ qui pardonne nos péchés. Il est donc exclu de nous glorifier. C'est ce que nous dit dans Romains au chapitre 3, verset 25, on ne va pas le lire, mais hein, nous n'avons pas à nous glorifier, parce que c'est, tout revient au Seigneur. Et à plusieurs reprises, Jésus a annoncé qu'il fallait qu'il souffre et qu'il meure et qu'il ressuscitera. On peut le lire dans Matthieu au chapitre 16 et verset 21. Matthieu 16, verset 21.
Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem. Beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le troisième jour.
Voilà. Déjà, le Seigneur parlait de sa mort et de sa résurrection. Alors, l'apôtre Paul a insisté auprès des Thessaloniciens de la nécessité de la mort de Jésus dans Actes au chapitre 17, verset 3. Cette mort, on ne va pas le lire, cette mort était absolument nécessaire pour que l'homme soit sauvé. Donc, c'est par grâce. Hein. La grâce est un don que nous ne méritons pas. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et c'est par le moyen de la foi en lui et par la repentance que nous sommes sauvés. Alors juste peut-être quelques mots sur la repentance, c'est après coup que j'ai pensé à quelque chose, c'est que nous avons tous besoin de nous repentir, tous. La foi en Jésus doit nous conduire à la repentance, sinon nous périrons. Et il y a des textes qui nous le disent dans la parole de Dieu, que si tu ne te repens pas, tu mourras. Et je crois que l'importance, c'est de se repentir. Et ce mot repentir, c'est vrai qu'on peut lui donner plusieurs définitions. Il y en a qui disent, je regrette ce que j'ai fait, je suis désolé. Mais exactement le mot repentance, on le connaît, ça veut dire faire demi-tour. C'est aussi changer d'avis. Quand on change d'avis, automatiquement, notre façon d'agir changera aussi. Par exemple, si je suis sur l'autoroute et que je me dis, mince, je vais changer d'avis, je vais partir ailleurs. Je sais qu'à la prochaine sortie, je vais tourner pour aller là où je veux. Si je ne veux pas changer d'avis, je vais continuer. Eh bien, la repentance, c'est un peu ça. C'est faire demi-tour, c'est faire changer d'avis afin de pouvoir que notre façon de faire n'est plus la même. Et je crois que la repentance, une vraie repentance, c'est de plus faire, de ne plus agir comme je faisais avant. Et il y a un travail à faire sur nous-mêmes. Et c'est par la force du Seigneur qu'on va y arriver. Hein? Mais il y a toujours, je pense qu'on a toujours une responsabilité, chacun de nous a une responsabilité, et de se dire, bon, oui, je veux, Seigneur, je veux te suivre. Bon, mais le Seigneur, il est d'accord avec ça. Mais nous avons aussi une attitude, nous avons une repentance, nous avons besoin d'agir différemment, de changer de façon de faire, de changer de façon de penser. Ça, je crois que c'est important aussi. Et donc, la repentance, c'est quelque chose aussi d'important. Et le Seigneur nous le dit, repens-toi. Et nous avons besoin de nous repentir. Alors peut-être, quelques mots, je ne voudrais pas non plus... si vous voulez rajouter quelque chose sur la repentance, sur la mort de Jésus.
Oui. Juste, tu parlais d'autoroute. En fait, c'est très très bien ton image. Parce que si à la prochaine sortie, tu ne sors pas, il y aura une autre sortie peut-être. Si à l'autre sortie, tu ne sors pas, ben, en fait, tu t'éloignes de plus en plus de l'objectif. Et à un moment donné, il sera quasiment impossible de revenir en arrière. parce que tu te seras trop éloigné de l'objectif. Donc il est important que quand on entend et que nous sommes touchés, il faut absolument sortir de l'autoroute.
Bonne image.
Si je ne sors pas de l'eau, plus j'attends et moins j'ai la possibilité, je réduis mes possibilités de pouvoir faire demi-tour. On le voit, les gens par exemple qui pendant des années ont écouté la parole de Dieu, ont entendu la parole de Dieu. En fait, ces gens-là sont beaucoup plus difficiles à amener à la foi. Parce que justement, ils refusent de sortir à chaque fois.
Et c'est pour ça d'ailleurs que la Bible nous dit aujourd'hui, si tu entends ma voix. Parce que si on attend de se dire, ah bon, ouais, je reviendrai au Seigneur, mais bon, j'attends d'être mieux, de m'améliorer pour pouvoir me tourner au Seigneur. C'est pas ce que le Seigneur nous demande. Venez à moi tel que tu es.
Il nous prend tel qu'on est.
Et il nous prend tel que nous sommes. Mais nous ne devons pas, comme il dit Jean, cette image de la deuxième sortie, la troisième sortie, après, on repousse tout le temps.
Il y a plusieurs passages, il dit, quand je frappe à la porte, il faut...
Ouais, il faut ouvrir cette porte.
Ah, oui.
Et je crois que c'est important.
Il ne faut pas rester...
Est-ce que nous changeons du tout au tout? Enfin, je me permets de répondre aussi.
Je vais parler pour moi.
Oui.
Non, si je regarde à moi-même, je ne change pas du tout au tout. Hein? Je suis toujours un homme où j'ai besoin constamment de m'en refaire, de m'en référer.
Oui.
Référer à la parole de Dieu. Et il y a dans la journée des fois où je vais pouvoir me mettre en colère, où je vais faire des choses. Mais qu'est-ce que je crois qui est important? C'est comme ce que Dieu disait au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est un exemple parce qu'il a vu les miracles, il a vu qu'il y avait Dieu qui était là. Et ils se sont détournés de Dieu. Mais ce que le Seigneur nous dit, il dit au peuple d'Israël, si mon peuple s'humilie, prie et recherche ma face, je serai leur Dieu. Et je crois que je ne change pas. Et ma vie, je ne crois pas que je vais devenir un saint. Je suis saint parce qu'il y a le sang de Dieu qui va me couvrir. Mais ma vie personnelle, quand je regarde à moi-même, parfois j'ai honte. Et j'ai besoin de m'humilier. Et alors je ne change pas du tout, tout, tout. Mais ce que j'ai besoin, c'est vraiment de revenir au pied de la croix et de m'humilier, de demander pardon et de dire, Seigneur, je veux continuer.
Ce que je voulais dire, c'est que on a tout ce qu'on appelle des péchés chewing-gum qui adhèrent et qui ne veulent pas,
qui sont collés.
Qui veulent pas sortir. Quoi. Et il y a un texte qui me venait là, c'était celui de Matthieu, où c'est Jean-Baptiste qui prie, qui parle aux pharisiens et il dit « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Déjà, je pense qu'une véritable repentance, déjà, ça produit des fruits, des fruits de regret, des fruits de dire « Mais voilà, je ne suis pas content de ma situation, je ne suis pas content de mon état, je veux changer. » Et c'est déjà un pas. C'est déjà commencer à prendre la voie pour sortir de l'autoroute.
Ouais.
Et c'est vrai que quand on dit qu'on se repent, il faut carrément changer de direction. Mais, enfin, je veux dire, dans la réalité, on doit changer de direction, c'est un fait. Mais ça ne se fait pas d'un coup. Il y a un temps où on commence à prendre conscience, on se dit non, je ne vais pas recommencer. On chute à nouveau, on dit non, je ne vais plus recommencer. Mais on fait quand même des pas, petit à petit. On commence à faire des pas et on voit que ça s'éloigne de nous.
Et ce qu'il y a d'encourageant, c'est que si on se rend compte qu'on change tout doucement et que même on ne change pas aussi vite qu'on le voudrait, et même Paul en parle. Par contre, il y a quand même eu un changement total dans notre nature, puisque nous étions morts dans nos offenses, et que maintenant nous sommes rendus à la vie par la nouvelle naissance. Donc ça, c'est quand même encourageant aussi de savoir qu'il y a eu ce changement radical de nature, même si dans notre vie, on se rend compte que la vieille nature, elle est toujours là, et voilà. Et elle a...
C'est ça, c'est vraiment ça.
J'ai un petit témoignage. Le jour de ma conversion, en fait, j'ai pas été submergée par un esprit de tristesse vis-à-vis de mon péché, etc. C'est juste que j'ai répondu à l'appel de, Dieu. Parce qu'on m'avait dit, bon, quand j'ai rencontré des chrétiens, il y a des gens, bon, j'étais, je me dis, mais ils mettent Dieu à toutes, à toutes les sauces. Mais, et à un moment donné, j'ai senti qu'il fallait que je dise, oui, oui Seigneur, je réponds à ton appel. Oui Seigneur, je veux remettre ma vie entre tes mains et je veux vivre suivant toi ce que tu vas décider. Et c'est là qu'est le demi-tour, c'est là qu'a été la prise du chemin. Et après, on a effectivement tous ces moments où on a besoin de revenir sans cesse à la croix, parce qu'on se rend compte que plus on s'approche de la lumière, plus on est... vous savez, quand vous mettez... quand vous éloignez... la lumière d'une source de saleté, vous ne voyez pas la saleté, mais plus vous approchez de la lumière, plus vous voyez le grain de poussière là, qui voilà, c'est ça
et
en fait.
L'encouragement que l'apôtre Paul nous donne justement, c'est qu'il nous dit comme ça que c'est pas qu'il a atteint le but, mais non, il court. On aura du mal à atteindre le but, mais on doit avoir en nous toujours ce but de courir vers comme l'apôtre Paul le dit, quoi. Et notre vie, constamment, on n'atteindra jamais le but, mais on doit être encouragé toujours à aller dans ce chemin du Seigneur, parce qu'il veut nous amener justement à la perfection,
la sainteté
et tout.
Le point de départ, c'est la nouvelle naissance. Ouais. Si tu n'es pas né de nouveau, toutes ces choses qu'on dit ne te concernent pas. Ouais. C'est quand tu es né de nouveau, et là, effectivement, il y a la sanctification. Mais si tu n'es pas né de nouveau, toutes ces choses ne te concernent pas. Ouais. C'est-à-dire que tu es encore dans tes ténèbres. Et la nouvelle naissance, en fait, c'est comme on donne l'exemple d'un bébé, enfin, d'un roi, son enfant. Quand il naît, il est déjà roi. Il faut qu'il apprenne à devenir roi. Oui. Il y a toute une vie pour ça. Mais dès l'instant qu'il est né, il est déjà roi. Nous sommes déjà rois. Nous sommes déjà saints, sanctifiés, parfaits pour l'éternité. Mais il faut qu'on apprenne à être parfait, qu'on apprenne la sanctification. Et ça passe parfois par des souffrances, par des...
Peut-être si on reprend l'exemple de l'autoroute, il y a ce que tu disais tout à l'heure, celui qui ne veut pas faire demi-tour et qui s'enfonce toujours plus. Et il y a le chrétien qui se convertit, qui fait demi-tour, qui prend la direction, mais qui s'arrête parfois sur des autoroutes, sur des airs, au lieu d'aller au but.
Voilà. Exactement, Gino a bien résumé.
Très bien, merci. On va continuer. Alors, on va prendre « L'amour de Jésus suscite un grand intérêt dans le ciel ». Ah. Alors, on va lire dans Apocalypse au chapitre 5. Apocalypse, chapitre 5, versets 8 et 9. Vous voulez le lire ?
Quand il eut reçu le livre, les quatre êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de recevoir le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront toujours sur la terre. »
Voilà. Donc on voit que la mort de Jésus suscite vraiment un grand intérêt dans le ciel. Et alors, regardons ensemble un peu ce verset. Voilà que les quatre êtres vivants, il y a quatre êtres vivants et les 24 vieillards chantent un cantique nouveau. Et en disant, tu es digne d'ouvrir le livre car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu. Alors, je me suis posé la question... qui c'est ces quatre êtres vivants? Alors, je me suis dit peut-être, bon, est-ce que c'est les quatre évangiles? Je vous avoue, je n'ai pas trop cherché, je ne sais pas. Les 24 vieillards. Peut-être, je me suis dit, c'est peut-être aussi les 12 patriarches, avec les 12 apôtres. Ben, là aussi, je ne sais pas. Alors, en me posant cette question, je me suis dit, bon, ben, en tout cas, qu'est-ce qu'il faut retenir? c'est que si eux, dans le ciel, se joignent au cantique de l'agneau qui a été immolé, c'est-à-dire Jésus, hein, nous qui sommes ici encore sur terre, hein, que nous sommes dans la chair, eh bien nous devrions aussi examiner le vrai sens de celui qui a été immolé. Même les anges ont rendu gloire à Dieu. Je me dis, mais et nous sur la terre, on ne peut pas, en sachant qu'il a été immolé pour nous, mort, hein, ressuscité pour nos péchés, afin que nous puissions être sauvés, hein, quel cantique on devrait chanter. Et comment nous devrions aussi, j'allais dire vivre, oui, mais comment nous devrons réaliser cela dans nos vies. Je suis sûr que si vraiment on sent cette valeur de celui qui a été immolé pour moi, eh bien, ma vie, il n'y a pas besoin de se forcer, hein, de se dire, mais Seigneur, je te rends gloire aussi. Et j'avance dans l'humilité, vraiment dans... en t'adorant en esprit et vérité. Parce que même les anges rendent gloire. On peut lire dans Actes au chapitre... Apocalypse, chapitre 5, verset 11. Hein, on va lire le verset 11. C'est la suite. Hein.
Je regardais et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange.
Alors, quand nous sommes réunis le dimanche, quand nous chantons les louanges du Seigneur, comme il est beau de pouvoir reprendre ce texte, les anges, hein, ils chantent à l'agneau qui a été immolé et digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Quand nous chantons, hein, quand nous louons le Seigneur, eh bien, c'est dans cette attitude de cœur que nous devons chanter les louanges du Seigneur. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a eu des fausses interprétations, hein, sur la mort de Jésus. Il y a eu beaucoup de gens qui interprètent la mort de Jésus. Certains ont dit que sa mort, eh bien, ce fut un accident, que la justice de l'époque, eh bien, ils avaient mis à mort un homme qui était innocent, mais que sa mort n'avait aucune signification, alors qu'on voit à travers la parole de Dieu tout le contraire. Certains disent aussi qu'il a été simplement un martyr, qu'il a été mis à mort parce qu'il était, il est resté fidèle à ses principes. Pourtant, la Bible affirme avec précision sa mort, hein, et le but de ce qui a été le but de son sacrifice. Ce n'est donc pas un accident. Hein. La vraie signification de sa mort, nous allons voir. Alors, Ésaïe touche le fond de la vérité quand il déclare, hein, quand il est dit dans Ésaïe 53, verset 10, hein, il est dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice. Ésaïe 53, 10. On avait lu déjà un peu dans Ésaïe 53. Je crois qu'on l'a lu, non, déjà?
On a lu une partie.
Ouais, on a lu une partie. En fait, puisqu'on l'a lu, on ne va pas le relire, mais c'est vrai, comme j'ai dit tout à l'heure, ce chapitre d'Ésaïe, je crois qu'on pourrait étudier verset par verset, il y aurait des choses...
La réalisation.
Ah oui, voilà. Et pourtant, je crois que Ésaïe, ça a été écrit 6 ou 7 siècles avant. Hein. Donc, ça s'est passé exactement comme ça a été prédit. C'est extraordinaire. Alors, il est évident que Jésus-Christ n'est pas mort pour des péchés qu'il aurait lui-même faits. Hein. Jean 8, au verset 46, il dit « Qui de vous me convaincra de péché ?» Jésus n'a jamais péché, ni en pensée, ni en acte. On va lire Hébreux chapitre 4, verset 15.
En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché.
Voilà. On peut prendre aussi Pierre, 1 Pierre chapitre 2, verset 22.
Là, c'est pareil. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude.
Voilà. Hein? Jésus, il est mort pour nos péchés et non les siens. Hein? Esaïe, toujours 53, verset 5. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de versets. Hein? Christ est mort pour nous selon les Écritures. On peut lire 1 Pierre chapitre 2, le verset 24, on y était, c'est dommage, on aurait pu... 1 Pierre chapitre 2, verset 24, on a lu le 22.
Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort à nos péchés, nous vivions pour la justice, lui dont la meurtrissure vous a guéri.
Voilà, que nous vivions justement hein, pour la justice. On peut lire Marc aussi, Marc... 10, verset 45, la marque. Ah, il y a beaucoup de passages. Hein.
Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs.
Il a donné sa vie hein, comme rançon. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la mort de Jésus est une réparation. D'abord, elle satisfait à la justice de Dieu. Et je ne sais pas si vous connaissez ce cantique qui dit que le sang de Jésus-Christ suffit pour Dieu. S'il suffit pour Dieu, et donc il suffit pour moi. Donc c'est vrai que la mort de Jésus hein, nous a réconciliés avec Dieu. Donc il a payé le prix à notre place. On peut lire Romains 3, 25.
C'est lui que Dieu a destiné à son sang.
C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer. De montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus.
Voilà. Donc par le sang de Jésus nous avons la rédemption et la rédemption signifie délivrance par le paiement d'un prix et le prix c'est Jésus qui l'a payé à la croix. Il a réparé ce qui a été cassé, ce qui nous séparait justement de Dieu. Jésus donc est notre substitut, il est notre représentant, et la mort de Jésus a été payée par la rançon justement de sa mort. Je crois qu'on peut lire Matthieu 20, 28 aussi. Matthieu chapitre 20, verset 28.
C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs.
Ouais, on l'avait déjà lu, mais c'est bon de se le rappeler. Hein. Ah donc, on va continuer. La mort de Jésus est étroitement liée à l'expiation. Alors, on va lire dans le livre de Lévitique, au chapitre 5. Lévitique, chapitre 5, versets 21 à 26.
On n'a pas.
On n'a pas.
Pardon ?
Ça s'arrête à 19.
Il n'y en a pas.
Ah, donc j'ai fait une erreur quelque part.
Non.
Alors c'est le chapitre suivant alors.
Oui, ça doit être le 6, ou ça doit être le chapitre 6.
Voilà, ça doit être le 6.
Ouais. Moi j'ai le chapitre 5.
Ah. Oui, c'est bon.
Verset 21-26.
Oui.
Non, tu veux le lire ?
Chapitre 6, ça va ?
Oui, d'accord. Lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel, en montant à son compatriote au sujet d'un dépôt d'une valeur remise en main ou d'un vol, ou bien en commettant une extorsion envers son compatriote, c'est ça ?
Oui. Oui.
En niant avoir trouvé un objet perdu, ou en faisant un faux serment au sujet de l'un de tous les péchés que l'homme peut commettre, lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, il rendra l'objet qu'il a volé ou extorqué, le dépôt qui lui avait été confié, l'objet perdu qu'il a trouvé, ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment. Il le restituera en sa totalité, y ajoutera un cinquième, et le remettra à son propriétaire le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité. Il amènera au sacrificateur, à cause de sa culpabilité envers l'Éternel, un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après ton estimation comme sacrifice de culpabilité. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel, et il lui sera pardonné, quelle que soit la faute dont il se sera rendu coupable.
Voilà, donc pour résumer un peu ce passage, ici il est question d'une personne qui a péché, hein, et ou a commis une infidélité à l'Éternel. Donc le sacrificateur devait présenter un bélier, hein, un bélier qui était sans défaut, et le sacrificateur, il devait faire l'expiation devant Dieu pour le péché d'une personne. Et on voit aussi, mais on ne va pas le lire, dans Lévitique au chapitre 4, versets 13 à 20, il s'agit aussi de l'expiation pour le peuple qui avait péché. Et dans ce passage, il est question aussi que le sacrificateur, qui avait reçu donc l'onction, devait apporter le sang d'un taureau, et il y avait tout un rituel à faire. Et c'est vrai qu'on n'a pas le temps, bien sûr, de détailler tout ça, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il y a eu des études faites là-dessus, avec Alain Larré, et même Jean avait fait une étude sur le tabernacle, tout ce rituel qu'il y avait, qui, après, pour arriver justement au lieu saint, au lieu très saint, donc on voit qu'il y avait tout un rituel. Hein. Ah, donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce passage de Lévitique montre que le pardon est possible, que s'il y avait la mort, hein, et le sang versé des animaux, hein, qui sont des substituts, là aussi, pour le pardon des péchés. Hein. Et le mot en hébreu est kafar, souvent traduit par expiation, et ce qui signifie couvrir. Et donc, j'ai vu pas mal de passages où Dieu nous dit qu'il pardonne nos péchés, il a couvert nos péchés. Et la pensée de couvrir les péchés aux yeux de Dieu est suggérée comme le psaume 51, verset 11, qu'on n'a qu'à lire, qui parle de la pensée de couvrir les péchés, et d'oublier les péchés. On peut lire le psaume 51, verset 11.
Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités.
Ésaïe 38, verset 17. Il est dit, car tu as jeté derrière moi tous mes péchés.
Ça. Oui, oui.
Et on peut lire Michée chapitre 7 verset 19, j'avance un peu parce que l'heure tourne, dit tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Hein. Hébreux chapitre 10 verset 17, hein, il oublie nos péchés. Alors je ne sais pas si vous vous avez oublié quand quelqu'un vous a fait du mal, mais le Seigneur Dieu lui oublie nos péchés. Il couvre nos péchés. Et c'est justement ce sacrifice que Jésus-Christ a fait pour nous pardonner, oublier nos péchés. C'est extraordinaire, non ? Notre raisonnement humain, moi-même, je n'oublie pas certaines grâces que quelqu'un m'a fait, que ce soit au boulot ou quoi, on n'oublie pas, on a du mal. Mais lui, le Seigneur, il l'oublie. Alors, la mort de Jésus est aussi liée à la réconciliation. Donc la mort de Jésus a apaisé Dieu le Père. Nous l'avons vu dans Romains chapitre 5 verset 10. On ne va pas le lire, hein. Vous pourrez le lire chez vous. Hein. Il y a aussi, prenez des notes, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18. Et Éphésiens nous dit que l'homme a été réconcilié avec Dieu par la croix. Hein? Rappelez-vous, hein, que quand Jésus-Christ est mort dans le tabernacle, qu'est-ce qui s'est passé entre le lieu saint et le lieu très saint?
Le rideau s'est déchiré
de haut en bas. C'est-à-dire que par la mort de Jésus, il nous a réconciliés. Nous avons accès maintenant auprès du Père. Et nul ne va au Père que par Jésus.
Il est rentré comme notre sacrificateur.
Exactement. Alors, la portée de la mort de Jésus-Christ. Hein. Les Écritures nous enseignent que Christ est mort pour tous les hommes. Hein. Dans Jean 3, 16, vous connaissez ce verset, on ne va pas le lire. Hein. C'est peut-être le passage le plus connu, hein, car Dieu a tant aimé le monde, etc. Hein. Dans 1 Timothée au chapitre 4, verset 10, il est dit qu'il est venu surtout pour les croyants. Et il y a d'autres versions où il est dit principalement pour les croyants. Et en lisant Éphésiens chapitre 1 verset 4, on va le lire. Éphésiens chapitre 1 verset 4. Donc, ce que je voulais dire, c'est que Jésus est venu pour tous les croyants. Et on va lire Éphésiens 1 4. Vous l'avez ?
En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé.
On va s'arrêter sur le début du verset qui nous a élus. Alors, on peut penser et se poser peut-être la question, est-ce que nous sommes élus, hein? On peut penser alors que si Dieu ne m'a pas élu, eh bien je ne suis pas sauvé. Si Dieu ne m'a pas élu. Alors je pense que penser cela ou laisser penser ou croire cela, eh bien nous laisserait penser que Dieu est injuste. Parce que quand on dit eh bien, j'ai été élu, j'ai été choisi, hein, alors est-ce que, pour ceux qui ne croient pas, est-ce que Dieu est injuste? Parce qu'il n'a pas été élu? Non. Dieu a rendu le salut possible à tous ceux qui croient. À tous. Nous sommes tous appelés. Mais la Bible nous dit que, mais hélas, il n'y a peu d'élus. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Hein? Et plusieurs passages le montrent, et dans Jean chapitre 1, verset 29, il est dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Tous. Et 1 Timothée chapitre 2, verset 26, il s'est donné en rançon pour tous. Hein? Hébreux chapitre 9, chapitre 2, verset 9, il a souffert la mort pour tous, nous l'avons lu. Hein? Et dans Tite chapitre 2, verset 11, on peut le lire. Il est dit, Tite chapitre 2, verset 11.
En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes.
Voilà. Donc, je reviens sur ce mot de salut. Hein? Je vous propose aussi de lire. Après, ça va être le dernier passage qu'on va lire. 2 Pierre, chapitre 3, et au verset 9.
Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère.
Ouais, alors je ne sais pas si je ne me suis pas
trompé. Non, c'est pas ça.
Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement
voilà.
de sa promesse,
voilà.
oui. comme quelques-uns le croient, les illusent de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance.
Voilà. Donc je reviens.
C'était pas le bon. Je reviens sur le fait d'être. De se dire est élu. Hein. Dieu use de patience envers tous, ne voulant que personne ne meure. Donc sa mort nous garantit la restauration finale. Hein. Oui, l'expiation de Jésus est illimitée dans le sens où elle est valable pour tous les hommes. Hein. Parce qu'il y a des personnes, j'ai entendu dire, qui me disent « Ah ouais, mais toi, il t'a choisi, alors tu es un élu. » Non, il a choisi tout le monde. Hein. Hein. Il est bien dit que pour tous ceux qui croient.
Tous ceux qui croient et qui l'acceptent.
Et qui l'acceptent. Alors, on peut se poser la question. Hein. Est-ce que nous croyons? Crois-tu cela? Eh bien, quand la personne, elle croit, eh bien, si elle croit, eh bien, elle devient un élu. Il devient un enfant de Dieu. Il est héritier des promesses de Dieu. Tous sont appelés. Mais ce mot élu peut laisser penser que ouais, bon, c'est Dieu qui choisit. C'est-à-dire que Dieu sait déjà à l'avance qui a répondu. Mais nous sommes tous appelés. À tous ceux qui croient. Alors, je vois que c'est l'heure, pardon, on a dépassé un peu. Je voudrais juste terminer sur deux mots. Hein. Vous savez, Jésus, quand il était avec ses disciples, et vous vous rappelez le moment du repas, hein, Jésus a voulu rappeler qu'il allait mourir et les bienfaits de sa mort. Alors, rappelez-vous, il a pris le pain, il a dit « Ceci est mon corps qui a été brisé pour vous ». Ensuite, il prend la coupe et il dit « Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. » Alors, nous qui prenons le repas tous les dimanches et que nous avons parlé ce soir de la mort de Jésus, quelle retombée il y a eu par le sang de Jésus, tout cela. Quand nous prenons le pain et le vin, et je crois que la Bible dit, prenez-le avec discernement, de nous rappeler réellement
ce qu'il a fait,
sa mort, hein, et par où il est passé, et les bienfaits que sa mort hein, nous donne. Je crois qu'il faut vraiment prendre conscience que de nous rappeler, hein, quand nous prenons sur le pain, et qui sont des symboles aussi, hein, dernièrement, j'ai discuté avec quelqu'un, il disait « Non, non, c'est le corps de Jésus que tu prends. Hein, » bon, on a engagé des conversations assez loin. Mais le but, c'est de vraiment nous rappeler hein, les bienfaits de la mort, de ce sang qui nous purifie de tout péché, qui nous couvre de tout péché, que nous sommes maintenant, oui, devenus une nature divine par la grâce du Seigneur. Eh bien, que nous devons le prendre vraiment en nous examinant et à vraiment le prendre avec conscience. Oui, donc prenons le pain le dimanche, hein, et dimanche prochain, si nous le faisons, je pense que ayons vraiment de nous rappeler ce qu'a été le sacrifice de Jésus. Parce qu'on aurait pu prendre d'autres passages, des souffrances, par où il est passé, parce que ce n'était pas simple. Hein. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné hein. Nous bénéficions de ce sacrifice. Mais lui, il a enduré. Et ça n'a pas été rien. La pire, c'est que lui qui était saint, il a été séparé. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Tout ça, pour moi, pour vous. Donc je crois que nous devons vraiment prendre cela avec discernement quand nous prenons le pain et le vin. Et donc, ça se termine là, j'ai dépassé un peu, pardon. Mais donc la prochaine fois, on parlera de la résurrection de Jésus-Christ qui fait partie du salut. Voilà, on peut peut-être terminer par la prière. David, si tu veux prier.
Seigneur, ce soir, on veut te remercier d'abord parce que tu nous as permis d'ouvrir ta parole. Tu nous as permis d'ouvrir ces mots que tu nous as laissés, qui nous parlent de toi, qui nous parlent de notre Sauveur, qui nous parlent du chemin que notre Sauveur a fait sur la terre et de ce sacrifice qu'il a fait, Seigneur. Et ce soir, on a pu se souvenir de cette mort qui a été annoncée depuis toujours, de cette mort qui nous sauve, de cette mort que l'on ne comprend pas toujours vraiment la profondeur, la souffrance que tu as eue pour nous, Seigneur. Mais, Seigneur, c'est avec un profond respect, une profonde joie aussi de savoir que tu es notre sauveur. Nous voulons te remercier. Amen.
Amen. Amen. Amen.